Bon, Bezrat Hashem, on va continuer la série de Shiurim sur le fait de garder la bracha de Purim et la bracha du mois de Hadar et du mois de Nissan toute l'année pour nous. On a expliqué que pour conserver cette bénédiction particulière qui est la bénédiction de la Géoula et pour être protégé, pour être évité d'être mis au banc de la société par un Bedin ici-bas ou par un Kadosh Baruch Hu dans le ciel, il y a 30 points sur lesquels il faut faire attention, sur lesquels on peut être menoudim, chez Menadim Ben Adam, qu'on le met de côté, le nidouille, ce que j'ai expliqué. Le nidouille, c'est pas le chiouv karet, c'est une personne, c'est pas une personne qui a mangé, par exemple, du chélev, donc du gras d'animal qui est interdit. Une partie du gras de l'animal est interdit, qu'on appelle le chélev. C'est pas ça. On parle d'une personne qui va être au milieu du banc de la société parce qu'elle va penser à elle ou agir d'une certaine façon qui n'est pas recevable au niveau de la société. Tout ça, on l'étudie dans le siman Shin Lamed Dalet du Yoredea. Shin Lamed Dalet du Yoredea, c'est Sheled. Sheled qui veut dire l'armature d'un immeuble. Donc, en réalité, la base de l'immeuble, des fondations jusqu'au sommet de l'immeuble, il y a ce qu'on appelle l'armature. Okay? Cette armature qui est très particulière, Baruch HaShem, c'est en réalité les 30 points dont on est en train de parler au niveau du nidouille. Si on s'abstient de les faire, c'est la base du judaïsme. D'accord? Ben Adam les Chavero. Et Ben Adam les Kono. Entre Dieu, entre l'homme et son prochain, et l'homme et son créateur. D'accord? C'est très important. Donc on voit par rapport à ça que qu'est-ce qu'on apprend de ça? Une chose intéressante, que tous les simanim, les entêtes des halakhot dans le Shulchan Aruch, qui sont des chiffres, normalement, c'est une gématria. Shin Lamed Dalet, c'est 334. Les lettres ont été choisies en réalité par rapport aux chiffres, jusqu'à l'introduction, qui a été une très bonne introduction du monde arabe, des chiffres dans ce monde, d'accord, pour développer de belles choses avec les maths, etc. Maintenant, ce qu'on voit, en réalité, c'est que, par rapport à ça, on voit que le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il n'a pas classé pour rien, selon certains notes, les halakhot. Que dans le chiffre choisi, Shin Lamed Dalet, il y a l'idée du Sheled, de la base. D'accord? Donc c'est quelque chose de très joli, on retrouve ça dans tous les simanim du Shulchan Aruch. D'accord? Alors maintenant, on voit donc qu'on a expliqué qu'il y avait sept premiers points. On a vu que dans les points en question, on pouvait parler aussi qu'il était interdit de parler de rabbanim, qu'il était interdit aussi de se rentrer dans les débats, dans les marloquettes, etc. Mais un autre point qui est extraordinaire et qui est important, on voit que de dénigrer une ordonnance rabbinique ou toraïque peut être grave. De ce fait, une personne qui va commencer à dénigrer les brachot. D'accord? Par exemple, au milieu de sa séouda, elle est en pleine séouda, elle se rappelle, cette personne-là, que elle doit faire la bénédiction, parce qu'elle a oublié de faire motzi sur le pain au début. Si elle se rappelle au milieu de sa bénédiction et qu'elle ne fait pas sa bracha, elle a un nidouï bidé shamaïm. Maintenant, si à la fin de son repas, elle a plus faim, elle s'est rendue compte qu'elle n'a pas fait la bracha au début, c'est pas grave, elle fait son birkat. Si elle a un doute si elle a fait la bénédiction ou pas, donc ça fait que brachot l'akel, d'accord? Pour pas venir dire le nom de Dieu en vain, il vaudra mieux qu'elle arrête son repas, qu'elle arrête de consommer son repas, si elle a un doute si elle a fait ou non la bénédiction, ou de prendre un autre aliment, de mettre bénédiction si elle prend, pour l'histoire d'un jus par exemple, chez Akol, etc. D'accord? De prendre un bonbon sur une boisson, etc. Voilà. Donc par rapport à ça, la question de Rabbi Yigal maintenant, c'est quoi ta question Rabbi Yigal? Pourquoi Dieu il a besoin des brachot? C'est ça la question. Kadosh Baruch Hu, en réalité, il n'a pas besoin de nos mitzvot. Pas besoin de nous.
Il a besoin
Il n'a
de
pas, il a besoin de toi.
rien. Il
Il
n'a
a
pas
besoin de
besoin
toi, le
de
bon
faire
Dieu.
de rien du tout.
Non, mais Geoffroy, il a besoin de toi, le bon Dieu.
Non.
Pas besoin. Il a besoin de nous. Pas besoin. Il nous a donné l'occasion de pouvoir faire des brachot. Il est rapporté dans le Talmud, Masechet Brachot, que quelqu'un qui consomme de son monde sans faire de bénédiction, il est considéré comme un voleur. Toute la création appartient à Kadosh Baruch Hu. Même si on travaille, même si on plante les graines, même si on travaille la terre, etc., celui qui donne et qui influence les conditions météorologiques, par exemple, les seules conditions météorologiques qui vont, oui ou non, nous donner une bonne ou une mauvaise récolte, c'est Kadosh Baruch Hu. Donc on doit le remercier pour ça. Donc il y a plein de belles choses dans la création. Plein de belles choses à expliquer. Maintenant, pourquoi Dieu il a besoin de notre brachot? En réalité, il n'a pas besoin d'elle. Nous, on a besoin des brachot pour se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. Pour comprendre d'où vient le bien dans ce monde. Pour nous élever, la Kadosh Baruch Hu. Une bracha, quand je récite une bénédiction, il faut savoir, premièrement, qu'il y a une marloquette dans les poskim sur la seule signification du mot Baruch. Le premier terme qu'on utilise dans nos brachot. Baruch, Ata, Hashem, Elokeinu, Melech Haolam, Baruch. Est-ce que Baruch veut dire loué soit l'éternel, Dieu est béni? D'accord? Ou est-ce que Baruch veut dire Mekor HaBeracha, la source de bénédiction? Alakha le maase, on considère que Baruch, c'est Mekor Aberacha. Ça veut dire louer, au sens littéral. Mais ça veut dire en réalité que Dieu, c'est une source de bénédiction. Quand moi, je fais Baruch, je fais une bénédiction au moment où je dis Baruch. D'accord? Je reconnais que la source de bénédiction dans ce monde, c'est l'éternel. Quand je dis Atta, c'est quoi Atta? C'est toi l'éternel, le seul Dieu. D'accord? Hachem, le maître de ce monde. Elokeinu, notre puissance. D'accord? Melech Haolam, seul maître de ce monde. Seul maître de l'univers. Toi, Dieu créateur, seul maître de l'univers. D'accord? Quand moi je dis Baruch, je reconnais qu'il y a une source de bénédiction. Donc moi, ma Neshama, elle est en train de se projeter, en réalité, de s'élever dans le ciel, dans ce qu'on appelle la Brecha Eliona. D'accord? La piscine supérieure. Qui est dans le ciel, entre guillemets. Et Brecha, c'est les mêmes lettres que Bracha. En réalité, mon âme, elle vient rechercher la Bracha de Dieu. Et quand moi, je viens chez une bénédiction, en fait, mon âme s'élève vers Dieu pour refaire descendre la sainteté de Dieu qui est dans la Brecha Eliona dans ce monde. Donc, en réalité, c'est moi qui ai besoin de faire les Brachot pour refaire descendre la sainteté dans ce monde et pour moi, pouvoir me rappeler à tout moment d'où je viens et où je vais. Je suis une créature de Dieu et je dois servir Dieu. Donc c'est pour ça que pour chaque aliment, chaque chose que je vais faire, je dois remercier Akadosh Baruch Hu et que pour chaque aliment que je dois consommer, je dois venir faire ma bénédiction. Donc si on voit qu'une personne qui n'a pas pour habitude, qui a pour habitude de faire ses brachot et qui oublie de faire sa bracha et au milieu de repas elle s'en rappelle, elle risque d'avoir un idouille sur sa tête, une personne qui fait jamais ses brachot. Jamais! Elle dit qu'il n'y a pas besoin des brachot. À quoi ça sert les brachot? Jamais de brachot.
Mais si on reconnaît que de toute façon, ça appartient à Dieu.
Oui.
Et qu'on est reconnaissant. Pourquoi faire l'action?
Ça ne suffit pas. Je te pose une question. Je sais que mon téléphone, avec mon téléphone, je sais que je peux appeler des gens. Je le sais. Viens, je touche pas mon téléphone. Viens, j'appuie pas sur les boutons et j'attends que mon téléphone appelle les gens pour pouvoir leur parler. Et je me mets à parler tout seul. Dans la rue avec des gens, sans toucher mon téléphone et sans appuyer sur les boutons. Ça va marcher?
Non.
Je te pose une question. Je te pose une question, c'est une idée. Je te pose la question. Donc moi, maintenant, je veux établir une communication avec le patron des patrons, Akadosh Baruch Hu. D'accord? Le roi des rois. Pour établir la communication, pour faire le numéro, faut appuyer sur les boutons. C'est quoi les boutons? C'est les mots que tu dis dans ta bracha. Si tu dis pas les mots de la bracha, t'as pas fait le bon numéro. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça.
Donc j'ai l'impression qu'entendre, dans ma compréhension,
oui.
Comme si c'était une régénérescence.
D'accord. Si on veut. Mais c'est pas vraiment ça. D'accord? C'est pas vraiment ça. Je vois ce que tu veux dire, Abraham. Mais c'est pas vraiment ça, c'est plus que ça. C'est pas une régénérescence. Une régénérescence, c'est de venir rétablir une énergie, d'accord, qui existait déjà. Ouais. Alors que là, on est en train d'élever son âme et son corps vers quelque chose de supérieur. Donc on n'est même plus dans une régénérescence, d'accord. À moins que tu veuilles faire allusion au monde avant la création, d'accord? Ou au monde avant la faute d'Adam Harishon et au monde après la faute d'Adam Harishon. Alors là, on peut dire qu'il y a une régénérescence.
Je mangeais un fruit.
Oui.
Finalement, j'ai fait une bracha avant, mais cette bracha va contribuer à ce qu'il y ait d'autres fruits encore, au final.
C'est pas exactement ça. Ça va un peu plus loin que ça. Bien, je vais te donner un exemple. Il y a une étude au Japon, réelle, d'un professeur japonais, qui a établi une chose extraordinaire. Je sens qu'avant de terminer les 30 points du nidouille, ça va vous prendre 5-6 jours. Alors maintenant, une chose extraordinaire. Mais c'est pas pour ça que c'est bien, parce qu'on voit plein d'alachot. Et une chose extraordinaire. Ils ont établi que lorsque l'on vient et on est à côté d'un aliment. Voilà, vous avez ramené un café. Ok? On ramène un aliment. Ok? Et que cet aliment-là, à côté de cet aliment, on va se dire des mots paisibles. Des mots d'amour. Entre guillemets. Il y a un professeur japonais qui a analysé les atomes et molécules des aliments en question. Il s'est rendu compte qu'ils non seulement se développaient de façon positive, mais en plus leur apport nutritionnel était plus riche que d'autres aliments dans lesquels qu'on avait mis en présence de personnes en train de se disputer ou de s'insulter, ou en train de dire des gros mots. Que quand il a regardé les atomes et les molécules de ces aliments-là, il s'est rendu compte que non seulement les apports nutritifs des aliments étaient moins importants, alors que c'est le même aliment. Il prend une bouteille d'eau, il prend un verre, il met dans une pièce avec deux amoureux, un verre, il met dans une pièce avec deux personnes qui sont en conflit. C'est la même eau. Le verre qui était dans la pièce avec les amoureux, il se rend compte que l'apport nutritionnel, d'accord, et le nombre de minéraux dans le verre sont extrêmement riches et que les molécules se développent de façon très belle. Donc il va même avec des appareils photos très poussés, en réalité pas des appareils photos, je dis n'importe quoi. Il va prendre des photos avec, comment ça s'appelle Non, pas photosynthèse. Les appareils qu'ils ont, les microscopes. Il va prendre des photos, d'accord, avec des microscopes pour analyser et nous montrer les molécules d'eau dans ce verre-là avec qui étaient en présence d'amoureux. Quelque chose d'extraordinaire. Fantastique. Et il prend la même eau qui est dans une pièce avec des personnes qui étaient en conflit, qui se sont insultées, qui ont dit des gros mots, etc. Quand on voit les molécules, ça fait peur. Si.
Oui, j'ai entendu ça.
Attendez, attendez. Le Rav Zamir Cohen a entendu parler de cette histoire. D'accord? Et de ce professeur japonais. Donc il a décidé d'aller au Japon pour rencontrer ce professeur.
Il était?
Ouais. Il en parle dans son livre La Révolution, Amapecha. D'accord? Donc, il voit comme ça, et il va au Japon pour rencontrer ce professeur, il lui propose, lui, de faire des brachot sur des aliments, et après qu'il analyse les molécules des aliments pour voir ce que ça fait. Le professeur japonais a vu que les molécules se développaient de façon extraordinaire, que l'apport nutritionnel ne pouvait pas être plus riche que ça, d'accord? Et qu'en plus de cela, elle prenait une forme fantastique. Ce professeur japonais, écoutez bien l'histoire, parce qu'elle n'est pas terminée l'histoire. Ça s'arrête dans le bouquin. Le professeur japonais, quand il a vu ça, il est devenu, ça l'a troublé. Il a commencé à se renseigner sur le judaïsme, etc. Il vient de se convertir.
Non. Donc. J'ai entendu aussi les questions des Atsadaïs. On lui a. Quelqu'un a fait l'expérience.
Voilà.
Il arrose des plantes, normalement. Et à côté, il y a les mêmes plantes. Et lui, il les arrose en faisant des Atsadaïs. Tu sais, donc, tu as un côté qui arrose normalement. Et un autre où. Les plantes, elles sont devenues beaucoup plus.
Belles.
Bon. Baruch HaShem, la semaine dernière, on avait vu les 8 premiers points sur le Nidou. Là, on continue le 9e point. Allez, on enchaîne.
Allez.
On continue?
Oui.
Bon, voilà. Alors, on parle d'une personne, Sheoler Umi Dedut Sheker, d'accord? Donc, Barkaot Shel. Bon, je vais vous faire en français. C'est bon, j'ai vu vos têtes. Non, je vais le faire en français. J'ai vu vos têtes, j'ai compris. Je vous le fais en français. Une personne qui va, en réalité, et qui va témoigner devant des tribunaux contre son prochain, d'accord? Tribunaux non juifs ou juifs, à tort. Ou qui va témoigner devant les tribunaux civils, d'accord? Contre son prochain et engendrer une perte d'argent à son prochain, d'accord? Qui n'est pas justifiée.
Il a besoin d'aller devant un midi avant pour demander qu'on fasse.
Alors, normalement, Alpi Alakha, avant qu'une affaire ne puisse venir se régler devant le civil, parfois, faut bien savoir, parfois c'est pas possible. Parfois c'est les tribunaux eux-mêmes, lorsqu'ils doivent faire un contrôle fiscal à une personne et qu'ils se rendent compte qu'il y a eu malversation, la personne elle peut être convoquée dans les tribunaux. D'accord? Maintenant on peut appeler d'autres personnes à venir témoigner contre leur prochain. Donc un juif qui est convoqué devant les tribunaux, un autre juif on lui demande de venir témoigner. Maintenant l'autre juif, il sait pas ce qui est vrai et ce qui est faux. D'accord? Premièrement, il n'a pas d'éléments. Il décide de témoigner parce qu'il a eu un différend avec la personne et qu'il veut lui faire du mal.
Bon, c'est grave, ça.
C'est très grave. Lui, il est Nidui Bideshamaim. Parce qu'il va engendrer non seulement une perte d'argent, mais parfois il peut engendrer des peines de prison. Ne serait-ce même qu'avec une peine de sursis. Avec sursis.
Il prend perpète.
D'accord? Hein?
Il prend perpète.
Non, il prend pas perpète, c'est jusqu'à qu'il fasse teshuva, donc il doit arranger le nézek qu'il a commis. Donc il doit réparer le nézek qu'il a commis. Comment il répare le nézek? S'il engendre une perte d'argent, il doit rembourser cette somme. Tant qu'il n'a pas remboursé la somme d'argent à son prochain, il est nidou bidé chamaï.
Ah, mais là, ça suffit pas.
Non. Il faut l'argent. Il faudra qu'il rembourse l'argent. Et même s'il demande mechila à l'autre et que l'autre il dit je mochel, me vater, etc. Non, il faut l'argent. Pour bidé chamaï, pour annuler le nidou, il faut qu'il répare son nézek.
Et par exemple, une société qui ferme.
Hein?
Une société qui ferme. Et parmi les créanciers, tu dois de l'argent à des gens.
Oui. Est-ce que pareil, c'est une faute, c'est une punition de les laisser comme ça si on n'a pas les moyens de payer les choses? Ah. C'est la même chose.
Oui. On va pas rentrer dans tout le détail de la halakha, d'accord? Mais moi, je vais répondre clairement. Aujourd'hui, à partir d'un certain moment où il y a un système légal qui s'est créé et qui a un risque que si une personne réellement vient à faire faillite et se retrouve sans le sou, il y a une protection légale et sociale qui s'est mise en place dans de nombreux pays pour cela, d'accord? La personne ne peut pas, les autres, quand ils ont fait affaire avec elle, ils ont fait affaire en connaissant ces lois, en connaissance de risque. Ils ont la possibilité de prendre des assurances pour pouvoir s'assurer en cas de problème, d'accord? Ou de pouvoir dire à son client, par exemple dans le système des traites, je te fais des traites, mais tu vas payer un petit peu plus pour prendre, souscrire à un contrat d'assurance qu'au cas où tu ne peux pas assurer tes traites, au cas où tu fais faillite, moi je sois remboursé au niveau de mon assurance. Si ces systèmes-là existent, vous les connaissez, d'accord? Donc à partir du moment où ces systèmes-là existent, si une personne réellement fait faillite et qu'elle n'a pas les moyens réels, hein, de pouvoir payer ses dettes, alors elle n'a aucun problème. Maintenant, à partir du moment où elle sait qu'elle est en difficulté, cette personne-là, et qu'elle est au bord de la faillite, et qu'elle sait très bien que si elle commande à ses fournisseurs des produits, ou si elle commence à travailler avec des fournisseurs, elle ne pourra pas les payer. Elle se dit au moment où elle les commande, quoi qu'il arrive, je vais faire faillite. Là, ça devient un voleur, même s'il n'a pas les moyens de payer. D'accord? C'est-à-dire, si une personne sait qu'elle est sur le point de faire faillite, et qu'elle veut utiliser le système légal pour, entre guillemets, essayer de sauver son business, et en train de se dire, au maximum, moi, j'ai pas comment payer, au maximum, si je suis faillite, je dépose le bilan, je ne les paye pas. D'accord? Ça devient un voleur. D'accord?
C'est gazelle.
Ouais, bien sûr que c'est du vol. D'accord? Donc ça, c'est très grave. Donc, ça, c'est, on est passé du coq à l'âne. On revient sur le 10e point. D'accord? Des nidouilles. 10e point du nidouille. D'accord? Un Kohen, alors nous ça ne nous concerne pas, et malheureusement aujourd'hui c'est des mitzvot que l'on ne fait plus. Ce qu'on fait aujourd'hui c'est en souvenir de ces mitzvot-là. Il faut savoir que quand on faisait un sacrifice, il y avait une partie d'un animal, ou quand on voulait consommer un animal, entre guillemets, il y avait une partie de l'animal qui revenait de droit au Kohen. Maintenant moi, quand j'avais un animal dans mon domaine privé, ok, j'avais une partie de l'animal, je devais donner ça en cadeau au Kohen. Pour nourrir le Kohen. Maintenant, nous, on parle de quoi? On parle d'un Kohen qui va égorger un de ses animaux à lui. Il se dit, moi, je suis Kohen, j'ai pas besoin de faire un cadeau à un autre Kohen. Donc, de venir donner en cadeau les joues et les parties de l'animal qu'on a l'habitude de donner en cadeau au Kohanim, il se dit, j'ai pas besoin de donner ça à un Kohen. D'accord? Donc, il ne veut pas donner au Kohen en se disant, moi, je suis Kohen, je peux garder ça pour moi. Celui-là, il a un nidou bide shamaim. Même le Kohen, d'accord, qui va égorger son propre animal, il devait, à l'époque du Beit Hamidash, donner en cadeau une partie de l'animal, comme tout autre juif, au Kohanim. Donc lui aussi, il est nidouille. D'accord? Donc, par rapport à ça, on peut développer. Il n'y a pas de véritable nidouille. Mais une personne qui se dit, moi, je suis en difficulté, avant de donner la tzedaka aux autres, je dois penser à moi. C'est un problème.
Non, c'est proche.
Ça rejoint la même idée. Ça rejoint la même idée. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que, même le pauvre, il a l'obligation de donner la tzedaka tous les jours.
Comment?
Bien sûr. Même le pauvre a l'obligation de donner la tzedaka tous les jours. Maintenant, il y a des pauvres qui sont patour mitzdaka. D'accord? Les pauvres qui sont patour mitzdaka, c'est-à-dire que même pour eux, d'accord? Quoi qu'il arrive, quoi qu'ils fassent, ils n'arrivent même pas à s'en sortir tout seuls. Donc ils n'arrivent même pas à se payer de quoi manger pour eux. D'accord? Donc, s'ils n'arrivent même pas à se payer de quoi manger pour eux, parce que dans le pauvre, il y a différents degrés. D'accord? Aujourd'hui, Baruch HaShem, en Israël, il y a des pauvres, des gens qui sont appelés pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils payent leur loyer et qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter une maison. Il faut savoir qu'on est dans un pays où 73% de la population est propriétaire d'un appartement. Les gens ne le savent pas. C'est en Israël... Hein,
73% de propriétaires?
Propriétaires.
C'est incroyable.
D'accord? Donc, il faut savoir que quand on nous parle de pauvres, c'est pas compliqué. Quand on vous dit qu'un enfant sur quatre en Israël n'a pas de quoi manger, d'accord? Un enfant sur quatre, en réalité, c'est pas pour vous, on parle pas d'enfants. On parle d'une partie de la population. Un sur quatre, donc un quart, c'est combien en termes de pourcentage? C'est 25%. 73% sont propriétaires, d'accord? 25% sont pauvres sans appartement, d'accord? Et au milieu, il y a 2%, on sait pas où est-ce qu'ils sont, dans les pourcentages. Ils sont entre les deux. D'accord? Maintenant, ce que je suis en train d'expliquer, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, donc il y a les nouveaux pauvres, mais ce qu'il faut savoir en réalité, c'est que les pauvres qui doivent profiter de la tzedaka normalement sont des personnes qui n'ont pas de quoi se payer 3 repas par jour. C'est à eux qu'on donne la tzedaka. D'accord? Et une personne qui réellement n'a pas de quoi pouvoir se payer ne serait-ce qu'un repas par jour, il n'est pas tour de tzedaka. Pas tour de tzedaka. Plutôt que mashmaou. Ça, on l'apprend dans le Shulchan Aruch. D'accord? Yoridera, Siman, Resh, Memzaïn. Donc là-bas, on voit à partir de Resh, Memzaïn. D'accord? Siman 247 et plus. On voit que réellement, il y a une possibilité. On voit que, à partir de là et plus, on voit que les lois de la tzedaka. Et les lois du Maaser sont comprises dans les lois de la tzedaka. C'est une obligation, la tzedaka.
De ce qu'on gagne.
Alors, attends.
C'est des trucs différents,
ça. Alors, ouais. Alors, bien. Par rapport à ce que tu dis, ce qui est très intéressant, on voit quoi en réalité? On voit que le Maaser Ksafim, donc de venir prélever entre 10 et 20% de nos revenus, d'accord, ça fait partie de la tzedaka. Maintenant, pour qui on parle de Maaser Ksafim? On parle de personnes qui gagnent largement de quoi vivre, d'accord, qui subviennent à leurs besoins.
20%, j'ai entendu.
Ça va jusqu'à
20%. Non, c'est 10%, ça peut aller jusqu'à 20%, mais t'as pas le droit de dépasser.
Chez la TVA,
hein?
Chez la TVA, 20%.
Alors, ouais, mais bon, alors viens. Alors, je vous explique. D'accord? Ça peut aller jusqu'à 20%. C'est entre 10 et 20%. D'accord?
Mais Maaser est porte-nom de 10.
Non.
Maaser.
Non. Maaser, ça veut dire prélever. Les Aser. Ça veut pas dire de Esser. La Aser, c'est prélever. D'accord? Et en réalité, de venir prélever, on parle de la dîme. D'accord? La dîme, c'est quoi? C'est un chomesh. Chomesh, c'est un cinquième. Un cinquième en termes de pourcentage, c'est
20%. Ah
oui. Un cinquième,
c'est 20%?
Oui. Ouais. 5 fois 20%. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça peut aller jusqu'à 20%. Shlomo HaMelech rapporte qu'au-delà de 20%, une personne risque de s'appauvrir. Maintenant, quand on parle de gens qui, Dieu bénisse pour eux, des multimilliardaires, que même s'ils donnent 20% de leurs revenus, ils risquent pas de s'appauvrir, d'accord? Alors, ils ont pas de problème, ceux-là. Surtout aujourd'hui, avec le système fiscal, que dans beaucoup de pays, quand on fait des dons à des associations qui s'occupent de pauvres, il y a moyen de récupérer une partie des dons sur nos impôts. Donc, parfois, pour certaines personnes, c'est un gain, entre guillemets, de faire des dons aux associations. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, en réalité, il y a autre chose qui est ici extraordinaire et qu'il faut bien comprendre. Les lois du Maaser font partie de la Tzedaka. Le Maaser se calcule, c'est entre 10 et 20% de nos revenus, des revenus. Maintenant, pour les personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts, d'accord, dans leur vie, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir le minimum vital, le Maaser se calculera après avoir déduit leur minimum vital. Je donne un exemple concret. Aujourd'hui, minimum vital pour une famille avec 2 enfants, en moyenne en Israël, pour payer un loyer ou une mashkenta, pour payer la nourriture, pour payer l'école des enfants, etc., c'est 10 000 shekels. D'accord? C'est en moyenne aujourd'hui. Parce que le taux de la vie n'a pas... Il y a quelques années, je donnais des shiurim, je disais 8 000 shekels.
Pour le foyer,
l'ensemble du foyer. Il faut minimum, du minimum.
Ça dépend combien d'enfants.
10 000 shekels. Je parle pour un foyer avec 2 enfants. Je parle du minimum. Non, en général, en Israël, le minimum du minimum du minimum, la moyenne, c'est 10 000 shekels aujourd'hui. Il y a quelques années, je parlais de 7-8 000 shekels. Aujourd'hui, on est arrivé à 10 000 shekels. D'accord? Dieu bénisse, grâce au dernier gouvernement israélien, ils nous ont fait une chose extraordinaire dans ce pays. On va pas parler de politique. Aujourd'hui, on est passé à 10 000 shekels. D'accord? Ils ont beau venir nous dire qu'ils ont diminué le coût de la vie. Ils ont diminué le coût de la vie de 5% après l'avoir fait augmenter de 30%. Ça, on va pas trop rentrer dans le détail. Les mêmes personnes qui se vantent aujourd'hui d'avoir diminué le prix de la vie, le coût de la vie de 5% aujourd'hui en Israël, ont fait augmenter par leur loi au départ, dès qu'ils ont été instaurés il y a 1 an et demi, le coût de la vie, il avait augmenté de 33%. D'accord? La nourriture avait augmenté de 33%. Après avoir augmenté le prix de la nourriture et le coût de la vie de 33%, ils ont diminué 5%. Aujourd'hui, ils sont en train de se vanter d'avoir fait diminuer le coût de la vie de 5%.
Oui.
D'accord? Alors qu'en réalité, si je prends 33.5, on tombe à combien? On est à 28%, donc ils ont fait augmenter le coût de la vie de 28%. Donc c'est pour ça, de 8 000, on arrive à 10 000 aujourd'hui. Donc, par rapport à ça, voilà, Baruch HaShem, je ne fais pas de politique. Maintenant, par rapport à ça, on ne parle pas de ça. Les élections, c'est un gros problème. Donc, maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, parce que c'est beaucoup de marlokot, beaucoup de débats.
D'accord? Il y a des débats parfois. C'est le, comme je vous ai déjà expliqué, une marloquette, ça peut devenir un issur de oraita. Et que quand on veut influencer les gens par rapport à son propre point de vue sans dévoiler le point de vue de l'autre ou les règles de l'autre, on rentre réellement les gens dans une marloquette pour dénigrer l'autre. D'accord? Donc on manipule en réalité les idées de la population pour les influencer et les faire tendre de notre côté. Et on se rentre dans un von de oraita. Donc toutes les marlocottes autour de la politique en Israël, ça devient un von de oraita aujourd'hui. Au lieu de s'unir et d'essayer de régler les choses tous ensemble et de voir les choses comment on peut s'unir pour créer une harmonie dans le clal Israël et dans le ham Israël, tel que ça devrait, on est en train de voir aujourd'hui des politiciens de toute tendance, hein, religieux par religieux, en train de se manger le bec entre guillemets et de créer des avonotes sur avonotes sur avonotes. Ils se tirent aujourd'hui dans les pattes, les attaques aujourd'hui entre politiciens. C'est quelque chose qui ne devrait pas exister dans le clan Israël, ce sont des attaques personnelles. D'accord? Et ça tire vers le bas tout le monde. Donc c'est très grave. Donc c'est une usine à Averot. La politique, une usine à Averot, les prérotes. Je vous dis, c'est très grave ce que je suis en train de dire. D'accord? Mais réellement. Par rapport à ça, hein, qu'est-ce qu'on voit? On voit une chose extraordinaire, c'est pour ça que moi je fais pas de politique. J'ai pas de tendance politique, je fais pas de politique, Baruch HaShem, ça m'intéresse pas. Juste une chose qu'il faut bien comprendre. Donc aujourd'hui, une famille elle a besoin de 10 000 shekels en moyenne pour deux enfants, minimum du minimum. Si un foyer ne gagne pas les 10 000 shekels, d'accord, il n'est pas tour du maaser. Pourtant, il a l'obligation de devoir continuer à donner la tzedaka tous les jours. Parce qu'il a de quoi se payer ses repas. Mais il devient pas tour de maaser. S'il gagne plus de 10 000 shekels, mais qu'il a du mal à jongler debout, donc on va dire un foyer qui gagne 12 000 shekels, où ils sont un peu du mal, il ne donne pas le maaser sur les 10 000. Il donne le maaser sur les 2 000, exactement. D'accord? Donc sur le plus. Ils disent le minimum vital.
Mais c'est quoi la grille? Combien on fait sur le plus de 10 000?
De quoi?
Il veut négocier.
Non, la grille, c'est quoi? Il y a une grille. Ça veut dire que sur la base de 12 000...
Comment on calcule le minimum vital?
Non, on l'a calculé, celui-là. Il y a des de 10 000 en moyenne.
Non, mais c'est pas... Mais comment je calcule mon minimum vital? Je vois le type d'appartement dont j'ai besoin par rapport au nombre de personnes que j'ai dans ma famille. D'accord? L'appartement minimal... Donc, si j'ai 3-4 enfants, avec un 3 pièces, je peux m'en sortir, entre guillemets. Les enfants, je peux les faire dormir ensemble. C'est tous des garçons, entre guillemets. Ou si l'âge des enfants me permet de les tous les faire dormir dans la même chambre. De quoi?
On peut les mettre dans...
Jusqu'à l'âge de 7 ans. D'accord? Au-delà de cet âge-là, il est conseillé de séparer les garçons et les filles et pas les mettre dans la même chambre. D'accord? C'est pas une question d'alakha, c'est aussi une question d'éducation. Que les filles, elles ont leur façon de vivre, les garçons, ils ont leur façon de vivre. Dans la même chambre, ça ne peut pas aller ensemble. D'accord? Parce que les garçons et les filles, ça ne fonctionne pas pareil. Donc, on voit comme ça. On voit que, donc, on voit par rapport à l'âge des enfants qu'on a, etc., le nombre de pièces minimum dont on a besoin pour pouvoir vivre correctement dans l'appartement. OK? Par rapport à ça, on voit le loyer le moins cher pour ce type d'appartement dans la ville dans laquelle on habite. D'accord? On voit le coût de Arnona que l'on doit payer. La Arnona ne peut pas être déduite du Maaser, vu que c'est... Pour nous qu'on est en train de payer l'Arnona. L'Arnona qu'on paye, c'est un impôt local pour s'occuper du tachtit de la ville, donc de l'infrastructure de la ville. Ok? Donc les routes, les trottoirs, c'est pour moi que je paye l'Arnona. Donc je ne peux pas déduire de mon maaser, ni de mon minimum, entre guillemets, ni de mon minimum vital. Ok? Donc je vends en réalité, je prends le loyer, la nourriture, l'électricité, l'eau, et voilà, et c'est le minimum vital. Hein?
On est une famille de 4 avec 2 enfants, donc on a
les écoles, pièces. Pardon. Excusez-moi, les frais scolaires aussi, je déduis, mon minimum, c'est ça le minimum vital. Les frais scolaires pour les enfants, la nourriture, le loyer et les charges. D'accord? Électricité, eau, vat, bait, etc. Ok? Ça, je déduis, c'est mon minimum vital. Une fois que j'ai ce minimum vital dans la ville, ce qui est le minimum, je sais si moi, par rapport à mes revenus, dans certaines villes, ça peut être 8 000 shekels, les gens qui habitent dans le nord, dans le Golan. Le minimum vital pour 2 enfants, c'est 7 000 shekels. Avec 7 000 shekels, on s'en sort très bien.
Dès qu'ils peuvent rentrer, même 3
d'accord.
Hein? On peut des fois même gagner 3-4 000. Pour les espaces, c'est même dur.
Bon.
Ça dépend de la configuration.
C'est pas une question de configuration. Nous, on te parle en général. Après, il y a des gens qui ont plus de bracha que d'autres, ou des gens qui ont un train de vie qui fait qu'ils ont plus de sorties d'argent, c'est pas le problème. Ils doivent quand même donner le maaser.
Oui.
C'est pas aux autres de payer leur train de vie, entre guillemets. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, et c'est logique en ça. Donc, il y a quand même, et pour avoir la bracha, quand on vient, on déduit son maaser, d'accord? Comme c'est rapporté dans la Gemara, aser, t'as aser, ou si t'as cher, d'accord? Que quand tu viens et tu prélèves ton maaser, il y a une bracha pour s'enrichir. Maintenant, cette bracha, le char rapporte dans le Shulchan Aruch, donc le Sifte Kohanim, il rapporte une chose extraordinaire dans le Shulchan Aruch, il rapporte que cela ne marche que si la personne vient et fait réellement le calcul de ses rentrées d'argent, de ses sorties d'argent, et chaque mois de calculer au centime près le maaser qu'elle doit donner. Là, si on vient et qu'on considère réellement la misva comme étant importante à un tel point de tenir la comptabilité sur cette misva-là, là, réellement, il y a une bénédiction, on vient en s'enrichir à force de donner le maaser. D'accord ? Maintenant, on voit. Bon, on voit le 11e point. D'accord ? On avait déjà vu, en réalité. Le 11e point, quelqu'un qui va venir et qui va... Une personne qui va venir et qui va être Mechalel le Yom Tov Sheni chez le Galuyot, comme on a dit la semaine dernière. Donc, une personne qui habite en dehors d'Israël. Il y a deux Yom Tov Sheni à Pessah, à Sukkot. Il y a deux Yom Tov, d'accord ? À Pessah, à Sukkot, à deux reprises, on a eu le Yom Tov Sheni de Galuyot durant ces fêtes-là. Ok ? Ou alors, les personnes qui sont à Shavuot, ou Shavuot chez eux, ça dure deux jours, au lieu de dire un jour, en dehors d'Israël. Si le deuxième jour, la personne se dit, c'est un jour qui a été fixé par les Rabbanim, aujourd'hui, il n'y a plus de raison, d'accord, de le garder ce jour-là, celui-là aussi, il a un nidouille. Ok ? Maintenant, on continue. 12e point. On verra au moment de Pessah, on verra qu'est-ce qui se passe pour un Israélien s'il va en France pour les fêtes ou un Français qui vient en Israël pour les fêtes. Quand est-ce, qu'est-ce qu'ils font? Un jour, deux jours, etc. On verra ça en détail, Bezrat Hashem, très bientôt. Donc, maintenant, on voit une autre chose extraordinaire. Dans la Gemara, il est rapporté une chose fantastique. Il est rapporté dans la Mishnah, dans Psachim, qu'il y avait pour coutume, veille de Pessah, à partir de Chatzot Hayom, de plus travailler. Et à partir de Chatzot Hayom, veille de Pessah, donc on voit que à partir du matin, déjà, on voit qu'on ne consomme plus de Hametz. D'accord ? À partir du matin, veille de Pessah. Donc on ne consomme plus de Hametz. On verra ça aussi, Bezrat Hashem, dans le détail. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y avait une coutume de ne plus travailler veille de Pessah, à partir de Chatzot Hayom, pour pouvoir préparer le Corban Pessah. Et le Corban Pessah, je pouvais déjà, à partir du moment où il n'y avait plus de Hametz dans la maison, je pouvais déjà commencer à préparer mon Corban. D'accord ? Donc, réellement. Donc, faire entrer Yom Tov aussi plus tôt. Mais une personne qui vient et qui travaille veille de Pessah, après Chatzot Hayom, d'accord ?
Chatzot Hayom, c'est à partir de midi à peu près.
C'est la mi-journée. C'est Chatzot Hayom, c'est à partir de la... C'est la 12e heure de la journée. D'accord ? Chatzot Hayom. C'est la 12e heure de la journée selon le calendrier hébraïque. Maintenant... Pourquoi il y a une différence? Pourquoi c'est pas midi pile? D'accord? Parce qu'il faut savoir que le calendrier hébraïque, c'est un calendrier qui est lunaire et solaire. D'accord? Il n'est pas principalement lunaire, comme certains voudraient dire, ou principalement solaire. Les deux. D'accord? Maintenant, ce calendrier hébraïque, il fonctionne par rapport aux heures du jour, par rapport au nombre de minutes où il fait jour durant la journée. D'accord ? On va répartir ça en 12 heures, quoi qu'il arrive. Et le nombre de minutes de la nuit, on va répartir ça en 12 heures, quoi qu'il arrive. Ce qui veut dire qu'en hiver, les heures de la nuit seront plus longues que les heures du jour. Ça, c'est un. Et que les heures en été où le jour est plus long, elles vont pas être de 60 minutes. D'accord ? Elles peuvent être. Il y a certaines périodes de l'année où on peut arriver à une heure qui a 83 minutes. Donc c'est pour ça que Chatzot Hayom, ça tombe jamais pile à midi. Comprenez ou pas?
Pas un comptable, hein, chez nous.
Hein? faut qu'on apprenne à compter. Alors maintenant, ok? Donc on va comme ça. Maintenant, réellement, on voit aujourd'hui qu'il n'y a plus le besoin de préparer le Corban Pessah. Il n'y a plus besoin de préparer le Corban Pessah. D'accord? Alors aujourd'hui, qu'il n'y a plus, c'est l'ignan du Corban Pessah, etc.
Quoi, Corban Pessah?
Le sacrifice pascal. Je suis bon en français. Toi, tu me poses la question, je parle en bon français. D'accord? L'agneau pascal. Donc, ouais, tu savais pas, ouais, parce que ça veut dire Pessah. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'agneau de Pessah, le sacrifice de Pessah.
Mais ça se fait plus.
Donc, on le fait plus aujourd'hui parce que il y a le Beth Amikdash, mais on voit en réalité que veille de Shabbat et veille de Yom Tov, à partir de Chatzot Hayom, on ne doit plus travailler pour se préparer à la fête, normalement. D'accord ? Donc, réellement, il est conseillé de ne plus travailler. Il y a certains cas de figure dans lesquels on a déjà commencé une mélacha, c'est pour le besoin de la fête, ou pour un besoin particulier, on pourra autoriser après Khatsatayom de pouvoir continuer à travailler, mais en réalité, à partir de Khatsatayom, les Khatrila, il faut arrêter de travailler, veille de Shabbat, veille de Yom Tov. Une personne qui continue à travailler, et qui prend le risque, en continuant à travailler après Khatsatayom, d'être Mechalel le Yom Tov, parce qu'il aura du mal à arriver à l'heure à son travail, à la maison, il risque d'avoir un problème de nidouille. On ne parle pas ici, malheureusement, hein, de personnes qui sont bloquées vis-à-vis de leur patron à leur boulot.
Alors, j'ai une question, c'est important.
Vas-y.
C'est cette partie-là. Nous, en travaillant ici, on travaille qu'avec contre juifs. Ouais. On n'a pas de goy dans la société.
Ok. D'accord.
Il Pourquoi est anormal. Bah parce qu'on n'en a pas. D'accord. Qui va embaucher en tant que goy Qui c'est qui va répondre au téléphone si on s'arrête en avance Comment on peut se débrouiller
le vendredi?
Non, même le vendredi, il y a des heures...
Veille de Yom Tov.
Veille de Yom Tov. Les personnes avec qui on travaille ne peuvent pas comprendre que ça ne répond pas. Il y a des métiers très particuliers où tout de suite, quand on ne répond pas, ils se disent il y a un problème grave. On ne répond pas une journée, on ne répond pas deux jours. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous?
En période de fête?
Ben oui.
Ah, j'ai compris ta question.
En période de fête, ou juste un petit peu avant les fêtes, quand on doit s'arrêter avant.
J'ai compris.
C'est un vrai problème pour nous qui sommes ici.
Ok. En réalité, le conseil qui est donné, c'est de travailler à l'année, d'accord, pour ce type d'activité-là, avec ce qu'on appelle des standards. Il y a des standards, des sociétés standards, on loue leur service à l'année, que quand toi, tu ne peux pas répondre au téléphone, c'est recadré, c'est redirigé vers un standard. Donc il faut prendre travailler avec des sociétés standards qui sont, où là-bas ce sont des non-juifs qui travaillent, ok, que réellement ils n'ont aucun problème de Shabbat, de Yom Tov, de fête, etc. Ok, et que quand toi, tu ne peux pas travailler parce que c'est période de fête ou quoi que ce soit, tous les appels et les messages arrivent vers une secrétaire qui note tous les messages. D'accord? Que toi tu arrives après tes fêtes, après Khatsatayom le vendredi, etc. T'es tranquille. Et ça te rapporte la bracha. Ok? Et à l'année, c'est pas grand chose, hein. Il y a des standards, il y a des systèmes comme ça, c'est 20-30 € par mois, maximum. D'accord? Maintenant, ouais, c'est rien. Donc, on pose la question, le rabbin donne la réponse. Alors, Baruch Hashem. Donc, on continue. Bon, après, il y a d'autres inyanim. Il y a un 13e point. Une personne à l'époque du Bet Amigdash, aujourd'hui ça n'existe plus, qui va manger des kadashim en dehors du Bet Amigdash. Donc, des sacrifices qui devaient être consommés que dans la Hazara du Bet Amigdash, okay, qui sont consommés en dehors. Par exemple, le sacrifice de Pessah qui devait être mangé à Yerushalayim, d'accord, dans le Bet Amigdash. Maintenant, des sacrifices qui devaient être mangés dans la Hazara du Bet Amigdash étaient consommés en dehors de la Hazara, donc en dehors du Bet Amigdash, d'accord. Une personne qui fait en sorte, qui engendre, qui prend un bout de viande d'un sacrifice, c'est Kodesh. Il venait en dehors du Bet Amigdash, il donnait à son copain de manger un sandwich. Donne un shorma, il lui dit pas que dedans c'est, celui-là il est nidouille. D'accord? Ou il lui dit, non, t'as le droit de manger. En dehors du Bet Amigdash, c'est nidouille. D'accord? Ça c'est très grave. Ok? Donc ça c'est très grave. Maintenant, des personnes qui vont venir et qui vont aider d'autres personnes à faire du Khilou Lachem. Ou qui vont mettre des personnes dans une telle situation qu'elles vont être obligées de faire du Khilou Lachem. C'est très grave. Et Khilou Lachem, ça peut être très grave. Je vais vous donner un exemple. Alors, peut-être que je vais vous choquer. On va donner un exemple simple. Hein? Non, attends, toi tu vas... Je donne un exemple. Qu'est-ce qui peut engendrer du Khilou Lachem? D'accord? Quand par exemple on s'affiche en tant que juif et qu'on a un comportement qui ne va pas avec la halakha. Ou quand on commence à avoir des débats entre nous, ou par exemple, moi je peux vous donner des exemples. Quand par exemple, deux juifs religieux n'arrivent pas à régler leur conflit, au lieu de venir devant des dayanim, ils vont se faire juger devant les tribunaux civils. En France, il y a eu, il y a de ça quelques années, des gens très très religieux, avec la barbe, la kippa, les chapeaux et compagnie, hein, qui ont eu des différends dans leurs affaires, ils se sont trouvés devant un juge. Que leur a dit le juge? Il leur a dit, excusez-moi, vous êtes très religieux, à la limite d'apparence, vous êtes des rabbins, et vous venez régler vos conflits devant nos tribunaux, au lieu de régler ça entre vous. Le juge non-juif leur a dit ça, en France. D'accord? Maintenant, ce que je vous dis, donc ça, c'est premièrement, ça peut être un problème. Ça peut être un problème de Chilul Hashem. Si, en plus, le juge fait la remarque, c'est pas bien. Un autre exemple, d'envoyer des jeunes pour faire des manifestations dans la rue et bloquer la circulation. Chilul Hashem. D'accord? De venir, ou de dire, ou de, dans des cours, de venir et de venir critiquer d'autres rabbanim. De venir dans nos cours critiquer d'autres rabbanim pour encourager les gens à critiquer les rabbanim. Ou pour critiquer certaines mouvances ou certaines tendances du clan Israël, qui sont dans la Torah et les mitzvot. D'accord? Alors malheureusement, aujourd'hui, on voit de tout. Hein. On voit des orthodoxes qui vont critiquer des sionistes religieux qui vont critiquer des orthodoxes, des rabbanim entre eux qui se critiquent, etc. Ils encouragent les gens à venir les uns parler des autres. En général, en plus, ils n'apportent que leur version et que leur côté de la chose sans rapporter honnêtement les écrits des autres rabbanim et des maîtres qui étaient en face. D'accord? Et malheureusement, parfois, c'est encourager les gens non seulement dans la marloquette, dans un débat qui est un von de Horaïta, vu qu'on n'a pas dévoilé toutes les informations aux gens de façon honnête ou qu'on est incapable de le faire nous-mêmes, au moment où on rentre des gens dans le débat, et d'encourager les gens à critiquer. Oh, Chilul Hashem, une personne pareille, nidouille. De s'afficher, de critiquer les rabbins de façon dévoilée, nidouille, c'est un problème. Il y a dans la Torah, il y a ce qu'on appelle les 70 facettes de la Torah. Donc il y a des gens aujourd'hui qui vont vous dire, par exemple, qu'il faut à tout prix que tous les juifs fassent et viennent faire leur alia. Et d'autres rabbins qui vont dire, non, pour certains, il vaut mieux qu'ils restent là où ils sont aujourd'hui, pour se renforcer en Torah au Mitzvot avant de venir faire leur alia, parce qu'en Israël, il y a un très grand Yetzerara, et que les gens peuvent se détourner de la Torah et des Mitzvot. Ceux qui pensent que les autres doivent rester, ils n'ont pas le droit de critiquer ceux qui disent qu'ils doivent venir, et ceux qui disent que les autres doivent venir, ils n'ont pas le droit de critiquer ceux qui disent que les gens doivent rester, parce que les deux ont raison. Les deux ont raison. Il y a certaines personnes, réellement, pour qui il sera mieux de penser en termes de rouchaniout à leur mérite spirituel, avant de penser au danger matériel dans lequel ils sont. D'accord? Si pour faire venir une personne en Israël, pour qu'à la fin elle prenne des risques de ne pas faire Shabbat, de ne pas manger kasher, de rien faire alors qu'elle le fait en France, c'est un problème. Donc ces gens-là, hein, vaut mieux peut-être les encourager à rester là où ils sont. Mais de l'autre côté, si les gens, on les laisse comme ça, et on ne les fait pas venir, et on ne cherche pas à développer ce qu'il faut pour réussir en Israël, pour qu'ils puissent venir nous rejoindre ici, pour faire un maximum de Torah Mitzvot sur cette terre, c'est aussi un problème. Donc, avant d'encourager les autres de venir faire leur alia, venez, développons des structures pour eux. Moi, c'est une chose que je fais ici. Je développe des structures essentiellement pour les Français qui viennent et qui font leur alia. Je m'occupe de beaucoup de synagogues, de kehilot, je m'occupe de beaucoup de gens. Vous le savez très bien, Baruch HaShem. Donc, on développe ici des structures pour faire venir les gens. Ce serait bien de voir tout le monde faire ce type d'action-là. Ça, c'est vrai. Mais on a aujourd'hui des gens qui viennent et qui critiquent.
Des structures quoi? Commerciales?
Non, pas des structures commerciales. De développer des écoles, de développer des tamis, de développer des écoles, de développer des kihilotes, de mettre en place des rabbanim, de mettre en place des choses pour permettre aux gens de venir en Israël et d'être préservés dans leur Torah et leur mitzvot.
Pour faire venir les gens en Israël, il faut leur créer des emplois.
Aussi. Mais t'inquiète pas, il y a des emplois en Israël. Alors maintenant, Baruch HaShem, c'est pas ça qui manque en Israël. Celui qui veut travailler, il y a toujours du travail.
Non, mais c'est ce que je pense.
Alors maintenant, oui, mais donc réellement, donc je peux te dire, Baruch HaShem, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent, je sais pas quoi faire en Israël, et en une semaine, on leur trouve un emploi. D'accord? C'est pas compliqué. De trouver du travail en Israël, c'est vraiment pas compliqué. Ok? Baruch HaShem. Donc, ce que je suis en train de dire, donc de venir critiquer les uns les autres, ça sert à rien. Parce que tout le monde a raison. À la fin. Donc ça sert à quoi? Les uns, ils vont critiquer les autres, et les autres, ils critiquent les uns, alors que réellement, il faudrait peut-être tous travailler main dans la main pour pouvoir aider toute la Kehila à se renforcer en Torah et Mitzvot à travers le monde entier. Sans dire que ma façon de voir les choses, c'est la meilleure, parce que c'est pas vrai. Oh. C'est ça qu'a demandé Shlomo HaMelech, de savoir faire la différence entre le mensonge et la vérité. Et parfois, deux vérités peuvent se côtoyer et vivre ensemble. L'un à côté de l'autre, et c'est deux vérités. De rendre la vérité de l'autre un mensonge, c'est quelque chose de très grave. Parce que c'est une vérité. De vouloir préserver quelqu'un en dehors d'Israël dans sa Avodat Hashem, c'est une vérité. Et de vouloir faire venir quelqu'un en Israël tout en le renforçant en Torah Mitzvot, c'est aussi une vérité. Maintenant, il faut voir si la personne qu'on fait venir, elle en est capable ou non. Et si on peut l'intégrer dans des structures qui existent déjà. Et peut-être que les structures n'existent pas. Et si ces structures-là n'existent pas, avant de critiquer, le conseil que je donne à tout le monde, c'est de développer les structures qu'il faut pour pouvoir leur permettre de venir. C'est notre boulot en tant que rabbanim. C'est ce qu'on fait, Baruch HaShem. Donc par rapport à ça, on va essayer de continuer le shiur. D'accord ? 15e point.
13.
Non, on est au 15. On était au 14, juste avant. D'accord ? Donc maintenant, on est au 15e point. Ok ? Bezrat Hashem, voilà, dans 5 minutes on termine Bezrat Hashem. Le 15e point, ok. Une personne qui va établir le compte des années, d'accord, et qui va établir la sanctification du nouveau mois par rapport aux nouvelles lunes en dehors d'Israël. Pourquoi ? Il dit, la sanctification du mois, sur le calendrier hébraïque, elle doit se faire à Yerushalayim. D'accord ? Comme il dit, Kimi Tzion Tetzé Torah, ou Dvar Hashem Yerushalayim. De la ville de Tzion, de Yerushalayim, sortira la Torah. D'accord ? Et la parole de Dieu, l'enseignement de la Torah, vient d'Yerushalayim. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? On voit en réalité qu'on parle du calendrier hébraïque. On parle d'une personne qui vient et qui veut établir la sanctification du nouveau mois. Comment on établit la sanctification du nouveau mois ? Par rapport au renouvellement de la nouvelle lune. Quand à la moitié du mois, à l'époque, aujourd'hui on a plus besoin de ça, grâce aux nouveaux appareils qui existent. Mais à l'époque, quand ils n'avaient pas toute la technologie qu'on a aujourd'hui, il fallait que deux hommes viennent témoigner qu'ils ont vu la lune pleine, en pleine nuit, et on savait qu'on était à la moitié du mois, pour établir le prochain Rosh Chodesh. Ok ? Et après, ils établissaient, ils avaient des massaot, ils allumaient de montagne en montagne des flambeaux de feu, d'accord ? Comme on retrouve sur la muraille de Chine aujourd'hui, ça existe toujours, on peut toujours voir ces tours-là, où on allume des flambeaux pour avertir les gens, d'accord ? C'est comme ça qu'ils s'avertissaient dans tout Israël et en dehors d'Israël jusqu'en Babylonie, de la sanctification du nouveau mois. Mais ça se faisait depuis Israël. On ne pouvait pas le faire depuis en dehors d'Israël. Quelqu'un qui va venir commencer à le faire en dehors d'Israël, d'accord ? On dit qu'il est nidouille. Pourquoi ? Parce que toute la Torah, elle a été donnée. Et là, c'est ça qui va vous étonner, pour être faite en Israël. C'est-à-dire, la valeur d'une misva qui est faite sur la terre d'Israël, elle est incommensurable par rapport à la valeur d'une misva qui est faite en dehors d'Israël. Une chose pour laquelle chaque juif doit aspirer à revenir en Israël pour pouvoir faire la Torah et les misvot ici. La Torah ici, elle est extraordinaire. Moi, je peux vous dire une chose, il y a beaucoup de gens qui sont étonnés quand ils apprennent que j'ai passé un diplôme de Dayan. D'accord ? Ils disent, mais comment ? Il est jeune, 40 ans déjà, Dayan, Ben Porat Yosef. Je vous dis une chose, c'est un secret. La chaîne Eretz, la racine de Eretz, c'est Ratz. Ratz, ça veut dire courir, parce que tout va vite en Israël. La terre d'Israël est appelée Eretz Hatzvi, la terre de la gazelle, entre guillemets. D'accord ? Pour quelle raison ? D'accord ? Tout simplement parce que la peau de la gazelle, elle est extensible. Ok ? Donc elle est extrêmement extensible et élastique. Donc premièrement, il y a un miracle, même si c'est un tout petit pays, il y aura toujours de la place pour tous ceux qui vont revenir. Maintenant, dans Ishayahu, on dira que avant Mashiach, il y aura tellement de monde qui voudra venir en Israël que ceux qui voudront venir en Israël diront à leurs frères, faites-nous de la place pour qu'on puisse venir nous aussi. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Maintenant, on va au Hachem, dans le Golan, il y a énormément de place. Il y a des champs, il y a de quoi construire des immeubles et faire énormément de choses. D'accord? Même dans le Negev. Donc, il y a encore de la place. D'accord? Bezrat Hachem. Pour accueillir un maximum de monde et leur construire des habitations. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que c'est un miracle. Ça, c'est un miracle en soi. Deuxièmement, il y a beaucoup de miracles. Moi, je peux vous citer une chose extraordinaire. Une fois, on m'a parlé d'un politicien en France, qui est connu, Monsieur Jean-Marie Le Pen. Vous le connaissez ?
On connaît sa fille aussi.
Il explique que tous les missiles qui ont été tirés sur Israël...
Ouais,
que tous les missiles qui ont été tirés en Israël, c'est une manipulation israélienne, ouais. D'accord ? Parce qu'il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de blessés, d'accord ? Maintenant, ce qu'il faut savoir, une chose, c'est que Baruch Hashem, sur la terre d'Israël, il y a une bracha qui est très particulière, Baruch Hashem, d'accord ? il y a une bracha qui est très particulière sur la terre d'Israël, d'accord ? C'est qu'on est protégé ici. On a une protection particulière sur la terre d'Israël. Comme l'ont rapporté de nombreux grands maîtres, le Rav Kadouri, le Rav Mordechai Eliaou, le Rabbi de Lubavitch et encore d'autres. Donc je parle de maîtres contemporains, sans parler des écrits dans le Talmud, sans parler des brachot qu'il y a dans la Torah. La terre d'Israël, c'est l'endroit le plus sûr au monde pour les ministres. Réellement, on est protégé sur cette terre. On a une bénédiction particulière. Et même donc les non-juifs se servent aujourd'hui d'une chose qui n'est pas compréhensible. Et c'est normal qu'il parle comme ça, parce que c'est pas compréhensible pour lui. Comment on peut dire qu'il y a 8000 missiles qui sont tombés sur la ville de Sderot et qu'il y a eu 2-3 morts? C'est une folie. Comment c'est possible? Et les 2-3 morts qu'il y a eu, c'était dans les premières années. Donc, comment c'est possible sur 8000 missiles? D'accord?
Il louche, le mec.
Alors, c'est des mots de tireurs. Bezrat Hashem. Donc là, on a vu les 15 premiers points. Les 15 premiers points, Bezrat Hashem. La suite, la semaine prochaine. D'accord? On est déjà à la moitié du chemin. Il y a encore 30 points. Pas la semaine prochaine. Bezrat Hashem. On verra la semaine prochaine si on décalera le shiur par rapport à Purim. En tout cas, Purim Sameach à tout le monde. Bezrat Hashem. N'oubliez pas un petit point qui est très beau. À Purim, il y a une ségoula de boire, selon certains, 15 verres de vin. Attention, c'est pas 15 verres de vin, c'est 15 gorgées de vin. D'accord?
Et
15 gorgées de vin, d'accord? Alors 15 gorgées de vin, pour quelle raison? C'est une chose extraordinaire qu'on abordera si on fait un jour la semaine prochaine avant Pourim. On voit que à la misa de Pourim, il y a la misa du Mishté. Mishté, c'est Shtia et Achila. Si je prends la racine de Achila, c'est Achal, Ochel, manger. Achalia, c'est on mange, entre guillemets, pour se rapprocher de Dieu. Yudke, le nom de Dieu. Et Shtia, à la fin, c'est aussi Yudke. La valeur numérique de Yudke, c'est 15. D'accord? Et c'est le nom de Dieu en réalité. Et à Purim, il y a le Enyan. Il y a le fait que Amalek soit sorti en guerre contre les Bnei Israël. Et ça a empêché la royauté de Dieu de s'établir sur toutes les nations. Ce qui veut dire que le nom de Dieu demeure incomplet dans ce monde. C'est le nom de Yudke. Et pour rendre ce nom complet, pour le remettre, entre guillemets, rééquilibrer les forces de la rigueur divine et de la miséricorde divine dans ce monde, il faudra effacer le souvenir d'Amalek de ce monde pour inspirer en réalité, ça veut dire quoi? Inspirer toutes les nations à vouloir suivre l'ordonnance divine. D'accord? Donc tous les juifs et les nations du monde. Et cela se fera, quand cela se fera, Bezrat Hashem, comme on dit dans le Kaddish Idgadal Vidkadash Shemiraba, que soit grandi et sanctifié le nom complet de Dieu, d'accord? Ça veut dire en réalité qu'on arrive à reformer le nom complet de Dieu dans ce monde, qu'on rééquilibre la rigueur divine et la miséricorde divine dans ce monde, qui a été déséquilibré par le fait que Amalek soit sorti en guerre contre les Ministrels, avant le Matan Torah et après le Matan Torah. Plusieurs reprises, il est sorti. Donc, contre les Ministrels. Maintenant, ce qui est extraordinaire ici, c'est quoi? C'est qu'on nous rapporte que le nom de Yudke Vavke, en réalité, le Vav du Yudke Vavke, c'est un Yud qui est, quand Dieu est descendu sur le monde, c'est un Yud qui est devenu Vav, entre guillemets. Ça fait rapport à la faute originelle de Adam et Chava, que Dieu, quand il est redescendu sur le Sinaï, il est redescendu parmi nous dans ce monde. D'accord? Mais qui peut pas totalement se dévoiler à cause du fait que des hommes puissent encore se rebeller contre Dieu. Cette rébellion contre l'Éternel aujourd'hui, elle est imagée par l'image d'Amalek et de sa descendance. D'accord? Maintenant, ce qu'on voit, c'est quoi? Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand Mashiach viendra, le nom de Dieu se redeviendra complet, mais c'est l'ensemble de l'humanité qui va s'élever vers Akadosh Baruch Hu. Donc c'est plus Dieu qui descend vers nous. Donc c'est plus un Yud qui devient un Vav, c'est un Vav qui redevient un Yud. Donc le nom complet de Dieu, comme rapporte Ben Ishraï, c'est Yud-Ke, Yud-Ke. Donc c'est pour ça qu'il y a Achila et Shtia au moment du repas. Pourquoi? Parce que, premièrement, on nous enseigne que Shavuot, c'est Matan Torah de Oraita, c'est là qu'on a reçu la Torah. Et que Purim représente le Matan Torah des Rabbanan, parce que c'est grâce aux ordonnances rabbiniques. Premièrement, c'est une fête rabbinique, c'est une fête d'ordonnances rabbiniques. On n'en parle pas dans la Torah de Purim, c'est d'ordonnances rabbiniques. Et que durant Purim, on a été sauvé du fait qu'on a écouté le Gdol Ador et nos Rabbanim, Mordechai. Donc on célèbre le don de la Torah et le fait de respecter les enseignements de nos Rabbanim. Ça qui nous a sauvés à Purim. Donc c'est le Matan Torah des Rabbanan.
Et c'était quoi l'intérêt d'écrire le nom de Dieu en plusieurs versions?
Alors, on expliquera ça au prochain shiur. C'est combien de noms il a Dieu?
Non, 120 noms dévoilés.
120 noms dévoilés. Bezrat Hashem, on verra ça en temps et en heure. Prochain shiur, promis, on en parlera, Bezrat Hashem. En tout cas, Shabbat Shalom, Purim Sameach, et à très bientôt. Kol tout.